C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, premier sujet ce matin, est-ce qu'on doit subventionner les grands pollueurs pour réduire leurs gaz à effet de serre? On parle de quelques 20 millions sur la table du ministère de l'Environnement. Luc?
C'est tellement une joke, ça fait pleurer. Une joke qui fait pleurer. Moi, je pense que là-dedans, le ministre de l'Environnement fait dodo, là, comme la marmotte, pas besoin de se réveiller, tout va bien. Puis, ministre de l'Économie puis de l'Énergie, je le trouve pas très faisant. Parce que quand tu regardes les profits de ces entreprises-là, c'est à se rouler par terre. C'est 21 à 24 milliards de dollars pour Alcoa, Rio Tinto Alcan. Je regardais pour Alcoa, ils ont doublé leurs profits entre 21 et 22. Doublé leurs profits. Quelle industrie a doublé ses profits en un an? Pourquoi? Parce que l'énergie à travers le monde, l'énergie c'est une composante très importante de l'aluminium. Puis l'énergie à travers le monde, c'est gaz, pétrole, charbon. Toutes les industries qui font de l'aluminium avec du gaz, pétrole, charbon sont dans la mouille, sont même obligées de réduire de 50% leur production. Pendant ce temps-là, celles qui font leur énergie avec leur aluminium, avec l'électricité, sont morts de rire. Morts de rire. Les profits rentrent, là, ils sont pas capables de les compter, là. Ça prend des machines pour compter ça, ça prend l'intelligence artificielle pour compter les profits. Et pendant ce temps-là, le ministre de l'Environnement dépense des ressources rares pour donner 7 millions. Hey, ça paye même pas la barbe à papa au party de Noël, ça, le 7 millions. Prends le 48 millions, là. Que ça a coûté ce programme-là. Mais là, dans quelque chose pour lequel ça va avoir du sens. Ça va avoir le... Tu sais, comme combien de fois que le ministre a dit « l'argent pousse pas dans les arbres », le premier ministre a dit ça, quand, à chaque fois qu'on lui posait une question sur le logement, ou juste le nombre d'inspecteurs qu'on a coupés, parce qu'on n'est même pas capable au ministère de l'Environnement de savoir quels sont les lacs qui ont des algues bleues ou pas, ou toutes sortes d'autres formes de contamination. On n'est plus capable de regarder quels sont nos cours d'eau qui sont contaminés. Mais on envoie 48 millions de dollars à des entreprises qui ont doublé leurs profits pendant l'année. Ça s'appelle dormir au gaz. Ça, c'est ce qui fait honte à la fonction publique. Moi, je suis un défenseur de l'État. Tout le temps, je défends l'État. Mais des fois, j'ai honte. Puis les fonctionnaires qui font ça, là, qui tournent la machine à papier, clac, 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 sans regarder les chiffres qui rentrent puis les chiffres qui sortent, là, ils devraient avoir honte de leur job aussi.
Nathalie.
Bon, mon Dieu, Luc, ce matin, une petite camomille. Tout d'abord, le programme auquel on réfère ce matin, c'est un programme transitoire, c'est une mesure transitoire de 48 millions qui vise à supporter les grands pollueurs, ceux qui proviennent de la grande industrie au Québec, les cimenteries, les raffineries, le secteur minier, le secteur de la fabrication. Et cette mesure, elle est financée à même le marché du carbone. Donc, c'est pas vrai que ce sont les taxes des Québécois et les impôts des Québécois qui financent ce type de mesure. Les mots sont importants non, parce que cette mesure...
La taxe sur le carbone, sur l'essence, l'automobiliste le paye.
Oui, mais ça ne vient pas de tes impôts directement,
non, mais
tu comprends?
C'est comme une taxe sur l'essence additionnelle.
Oui, mais tout le monde fait son effort, Paul, pour réduire les gaz à effet de serre. Ça,
sauf,
c'est une mesure
sauf les alumineries.
Parmi tant d'autres. Non, parmi tant d'autres.
Non,
c'est pas vrai.
Nathalie.
Non, attends, je vais te donner des exemples concrets, si tu permets. Alors, cette mesure de transition, elle est transitoire. Pourquoi? Parce que le gouvernement, le ministère de l'Environnement, a dit à toutes ces entreprises, écoutez, à partir de 2024, là, savez-vous quoi? On va commencer à serrer les taux. On va commencer à serrer les taux parce que 2030 s'en vient, puis il y a 2050 où on veut atteindre collectivement la carboneutralité. La grande industrie au Québec, là, c'est 54 entreprises à elles seules, là, produisent 30 % des GES au Québec. Alors là, tu dis, attends une minute, il y a urgence en la matière. Tu prends le secteur de l'aluminium, je vais t'en parler. Rio Tinto Alcan vise la carboneutralité en 2050. Sais-tu combien, Luc, ils vont investir pour atteindre la carboneutralité en 2050? 7,5 milliards de dollars. Ils vont développer, pour y arriver, un nouveau processus pour produire un aluminium dénué de gaz à effet de serre. Tu fais pas ça en claquant des doigts, là. C'est pas vrai. Puis d'ailleurs, faut le dire que le secteur de l'aluminium au Québec, parce qu'il s'alimente avec l'hydroélectricité et l'aluminium, là, au Québec est l'industrie qui pollue, qui émet le moins de GES par rapport à toutes les autres alumineries du monde. Ça, il faut le dire. Là, on se targue d'avoir un REM à Montréal. C'est extraordinaire. Faut juste se rappeler que les voitures qui sont fabriquées pour le REM à Montréal viennent de l'Inde. Et en Inde, elles ont été fabriquées par des entreprises qui sont extrêmement polluantes. Faut juste mettre les choses dans leur perspective, là. Parce qu'à t'entendre, tout ce qu'on fait, c'est de la merde. C'est pas vrai que tout ce qu'on fait, c'est de la merde.
Moi, je m'appuie sur des faits. des faits. Le premier,
je m'appuie aussi fait. Sur attends, des faits alors, en
les
passant.
Faits, les faits.
Oui.
Article
oui.
de Francis Veille, là, il y a deux semaines dans la presse. Les alumineries nous coûtent 1,4 milliard en réduction de prix d'énergie par année. Tu dis qu'ils vont investir 7 milliards d'ici 2050. Ils nous coûtent 1,4 oui. milliard par année.
Fais Rio, le calcul. Uniquement fais, Rio non, Tinto.
Fais, c'est 50% de la production d'aluminium. Fais le calcul, Nathalie. Tu vas voir. Deuxième affaire. Oui, ils vont décarboner. Ils ont commencé à décarboner. Fer et titane, Rio Tinto, Alcan Fer et titane à contre-cœur, a obtenu une subvention de 750 millions de dollars par le gouvernement fédéral pour un investissement de 1,5 milliard. Je te garantis que le 7 milliards, c'est nous qui allons finir par le payer. Soit sous forme de bas tarifs en électricité, soit sous le fait qu'on leur donne notre eau, soit sur le fait qu'ils ne paient pas d'impôts, soit sur le fait qu'ils sont absous de la taxe sur le carbone. Ils sont morts de rire.
Tu vois juste le verre à moitié plein, mon cher Luc. Quand est-ce que tu me parles des retombées économiques pour le secteur, pour le Québec, si on n'avait pas l'aluminium, écoute, juste Rio Tinto Alcan là, au Québec, et l'aluminium là, juste Rio Tinto Alcan, c'est l'équivalent d'un Bombardier. On souvent, écoute, on vante le secteur aéronautique au Québec, c'est un secteur extraordinaire. Mais on devrait en faire de même avec l'aluminium, parce que l'aluminium, Luc, ça fait aussi vivre les régions au Québec.
Oui, mais c'est quand, mais Nathalie, quand c'est rendu que tu payes tellement pour créer des emplois, je pense que tu peux te poser la question et que tu dis, c'est l'aluminium qui produit moins de GES au monde, t'as raison. Mais au Québec, c'est parmi les entreprises qui produisent le plus de GES.
Moi, j'ai juste une question. Si une entreprise est prête à investir 7 milliards pour se moderniser puis en fait baisser ses émissions de gaz à effet de serre...
Pour décarboner, oui.
Moins décarboner. Pourquoi est-ce que Québec a besoin de payer une étude de 7 millions sur un projet qui, ultimement, là, c'est 7 milliards?
Ben, la réponse à ça, là, c'est qu'eux, ils ont des cibles. Ils ont mis un budget de 48 millions de dollars pour dire on va aider les entreprises les plus polluantes.
Oui, okay, mais...
Puis à la fin de l'année, ils vont se dire est-ce qu'on a dépensé notre 48 millions? Ah oui, notre programme est réussi. On va même avoir un bonus. On va même avoir un petit bonus.
Mais c'est comme le plan vert, là.
Non,
qui...
c'est ça, non, attendez, part, attendez, ça. attendez, les gars, là. Luc, Paul, je vais répondre à ta question. Les études, entre autres, elles permettent de savoir pour le ministère de l'Environnement et l'entreprise où est-ce que j'en suis dans mes efforts pour réduire mes GES. Quels sont les obstacles ou les défis qui sont devant moi, puis quel procédé je peux mettre en place pour y arriver. Alors, ce 48 millions investis, toute l'information qui va être récoltée va être partagée avec le ministère de l'Environnement et ça va fournir des données au ministère de l'Environnement pour savoir comment progresse la grande industrie au Québec pour ce qui est de la lutte aux gaz à effet de serre. C'est faux de dire que cet argent-là va être jeté aux poubelles, que c'est inutile. Les données, c'est très important au Québec, en santé, en éducation, mais c'est la même chose du côté du ministère de l'Environnement. Je peux comprendre que le Québec n'en fait pas suffisamment pour ce qui est de l'atteinte, pour la réduction de nos cibles. Mais dans le monde entier, si on se compare à ce qui se fait dans le monde entier, faut quand même rappeler que le Québec est la première province au Canada, le premier État en Amérique du Nord à avoir mis sur pied avec la Californie le marché, la bourse du carbone. Ça date de 2013. Okay, on a
Nathalie,
été des précurseurs en la matière.
Est-ce que tu te rappelles que quand on a évoqué ça la première fois, je t'ai dit oui, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont exclues du marché du carbone. Ils n'ont pas à payer. Ils sont
excuse-moi,
absous,
80% ils sont des... Non, 80%
oui,
des... Non.
Attention,
80% des... 80% des entreprises au Québec. En fait, le marché
là,
du carbone
de
au Québec...
Je parle de tous les produits exportables. Aluminerie, ciment, ils n'ont pas à payer la taxe carbone. Ils ne la paient pas.
Le marché du carbone... Le marché du carbone permet de viser 80% des entreprises qui émettent des GES. C'est sûr qu'il y a une partie de il y a des entreprises qui ne sont pas encore soumises au marché du carbone. C'est 20% à peu près.
Comme les
est-ce qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain?
Non, je dis pas ça.
Non, je crois pas.
Je dis juste qu'il faudrait qu'ils payent leur part. Il est pas normal. À l'époque où le marché du carbone a été mis en place, on a dit on ne peut pas facturer une taxe carbone à des entreprises qui devraient la payer alors que dans d'autres pays, il ne la paie pas. Ça, c'est ce qu'on a fait à l'époque. Maintenant, c'est plus vrai. Attends, excuse-moi. Maintenant, ce n'est plus vrai. Dans d'autres pays, il la paie, cette taxe carbone-là. Mais par ailleurs, quand tu as des entreprises qui ne font pas face à une concurrence déloyale, parce que là, ce n'est pas une concurrence déloyale, au contraire, parce que ils produisent de l'électricité, ils sont hyper favorisés par rapport à ceux qui produisent avec du pétrole.
C'est le temps
ou jamais de leur demander une contribution à la hauteur de leurs profits.
La compétitivité existe, que tu le veuilles ou non, pour l'aluminium au Québec par rapport à ce qui se fait dans le monde. L'autre chose, Luc, on tend d'année en année avoir une contribution de ces grandes entreprises au marché du carbone qui est plus réaliste à ce qu'on paie réellement sur le marché. Les allocations qu'on leur donne, ce qu'on appelle là, le droit de polluer, là, ben, elles vont diminuer. En 2024, le ministère de l'Environnement dit, sais-tu quoi, tes air miles qu'on te donnait depuis une couple d'années là, pour te permettre de faire la transition vers moins de pollution, hein, sais-tu quoi, tu vas en avoir moins à ta disposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas payer de plus en plus cher pour polluer. C'est ça que ça veut dire.
On s'arrête là-dessus. Au retour, Mme El Gawabi s'est excusée. Est-ce que c'est trop peu, trop tard ou est-ce que c'est suffisant?
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, est-ce qu'on est au dernier chapitre de la saga d'Amira El Gawabi? Il y a eu une rencontre avec M. Blanchet. Elle s'est excusée et la réponse de Québec est venue rapidement, trop peu, trop tard, mais selon vous, est-ce que c'est suffisant pour tourner la page? Nathalie.
Ben moi, j'espère, comme tu l'as dit, Paul, que ce sera le dernier chapitre. J'espère que ce sera le dernier chapitre. À un moment donné, il faut en revenir. Est-ce que ces excuses sont suffisantes? Pour moi, oui. Puis je vais vous dire ce qu'elle a... Parce que ces excuses sont arrivées après la rencontre avec Yves-François Blanchet. Elle a déclaré « Je suis convaincue que les Québécois ne sont pas racistes. Ce n'était pas mon intention et je m'excuse sincèrement de les avoir blessés avec mes mots. » Là, à un moment donné, dans toute cette histoire depuis le début de la semaine, parce que ça fait deux fois qu'on en parle ensemble, moi, je tente de départager la politique de la vérité. C'est vrai que Mme El Gawabi a poussé très fort sur le bouchon. Ça, je suis capable d'admettre ça. Parce que depuis qu'on s'en est parlé lundi, et depuis, il y a d'autres révélations qui ont été faites sur ses déclarations passées. Et elle a poussé très fort sur le bouchon. Je comprends la frustration de certains, mais à un moment donné... Il faut savoir passer un autre appel. Et le défi pour elle, et je dirais même qu'elle a probablement tiré une leçon de toute cette polémique, elle devra prendre des distances par rapport à son statut de militante, parce que c'est une militante pour ce qui est de la défense des droits des minorités, de la lutte à l'islamophobie. Mais là, elle devra se mettre elle devra, comment dire, avoir une façon de travailler avec les partenaires plus neutres. Et ce que je trouve désolant, c'est que quand je dis, j'essaie depuis le début de la semaine de départager la politique de la vérité, ce que je trouve désolant, c'est que certains partis politiques ont tellement réagi fortement que là, leur objectif est clair. C'est qu'on a tenté de récupérer, de le faire de la récupération politique. Parce que, évidemment, crier au scandale, crier au racisme de la part du Canada anglais, crier au mépris, c'est bien, mais politiquement... pour certains, ça peut être... C'est payant à court terme. Puis la CAQ en a fait la démonstration. Le PQ en a fait la démonstration. Puis ce que je trouve désolant, c'est que le Parti libéral du Québec a embarqué dans ce grand bateau des identitaires, le nationalisme identitaire là à sa plus grande expression. Alors, moi, je pense qu'on a besoin de prendre un petit peu de recul et de s'attaquer au fond du problème, c'est-à-dire le racisme et l'islamophobie.
Moi, je pense qu'il ne fait aucun doute que les déclarations de Mme El Gawabi étaient racistes. Ce n'est pas une raciste musulmane, c'est une raciste canadienne-anglaise, c'est-à-dire une raciste anti-nationalisme québécois, anti-souverainisme, anti-laïcité. Mais elle a cheminé. Et à partir du moment où elle a cheminé, puis qu'elle s'est excusée sincèrement, je pense que ça la rend meilleure citoyenne puis meilleure représentante de l'État. Et mieux que si ça ne s'était pas produit. Parce que ça s'est produit, elle est obligée de faire prendre conscience. Mais ce qui l'a forcé à s'excuser, c'est pas quelque chose de spontané en elle. C'est le mur qu'a imposé tout le Québec à sa déclaration. Trudeau a essayé aussi de diviser en disant « Ouais, mais finalement, c'est pas je l'appuie à 100%, etc. » Il a reçu un mur de résistance de tous les partis, de tous les universitaires, de tous les médias en disant « Ça passe pas. » Et c'est ça qui a fait que il y a eu une prise de conscience puis qu'ils se sont rabattus sur une position beaucoup plus logique et saine. À la fois Trudeau, on n'a pas beaucoup entendu le ministre Hussein là-dedans et Madame El Gawabi. Moi, je pense que elle n'a rien à se reprocher comme militante. Comme militante, toutes les déclarations qu'elle a faites, c'est des déclarations de militantes. Là, ils vont trop loin, ils poussent trop fort, ils veulent attirer l'attention, ils expriment leurs émotions sans contrainte. Mais là, elle est rendue représentante de l'État, et en tant que représentante de l'État, tout le poids de cette gaffe-là appartient à Trudeau. C'est lui qui est allé la chercher, c'est lui qui l'a défendue. Et là, récemment, vers la fin, il a dit « Oh! » Puis il a même fait un cours de pédagogie sur la religion au Québec versus la religion dans le reste du Canada. Fait que les deux ont progressé. Mais c'est grâce au mur de résistance de l'ensemble des Québécois.
Oui, peut-être, Luc, mais il faut quand même rappeler que Québec solidaire a résisté à cette espèce d'intensité exprimée, parce que je trouve, mais même on devrait s'interroger sur l'intensité avec laquelle on a réagi face à ce qui s'est passé cette semaine. Et moi, je pense que on a l'épiderme un peu trop sensible au Québec. On a le 1-800 humiliation un peu trop facile, comme le dirait notre ami Luc Lavoie. Et là-dessus, moi, je résiste à cet appel. Justement à s'auto-flageller constamment comme société. Il y a des chroniqueurs qui se font une spécialité d'écrire là-dessus. Là, c'est Trudeau, on démonise Trudeau. Le Canada anglais, là, on les démonise. Mais à ce que je sache, on va continuer d'évoluer dans ce Canada qui est une fédération avec ses tensions, avec parfois ses bons coups, mais avec ses tensions. Et j'espère qu'on ne va pas évacuer ce qui est essentiel dans ce dossier-là. Il faut juste se rappeler que il y a des gens qui ont perdu la vie avec la tuerie de la mosquée. Il y a une autochtone qui s'appelle Joyce Echaquan qui a aussi perdu la vie à l'hôpital de Joliette il y a quelques années parce qu'on ne lui a pas prodigué les soins dont elle avait besoin parce qu'elle a fait l'objet de racisme. Il y a ça aussi.
Mais est-ce qu'on pourrait...
c'est là-dessus qu'on devrait plancher.
On a-tu besoin, parce que là on a fait le débat sur la personne, là, mais si on parlait du poste, c'est-à-dire que le poste de conseillère ou de sur des questions de racisme, moi je suis pour ça parce que les Juifs le vivent, toutes les minorités finissent par le vivre. Mais pourquoi on a besoin spécifiquement de quelqu'un sur l'islamophobie?
Parce que la chicane est pognée. C'est-à-dire que dans un ministère, là, il y a des personnes qui traitent les dossiers. Ils reçoivent 150 subventions de groupes islamiques à travers le Canada, communautés islamiques, des mosquées qui ont des programmes d'intégration des jeunes, des beaux projets, là, tu sais, du beau stock. Même chose chez les Juifs, même chose chez les femmes, même chose chez les Autochtones, même. Puis ça, ça arrive tout au ministère Logement et Discrimination. Fait que t'as les 4 représentants de chacun des groupes minoritaires qui sont là, ou des fois 5. Puis là, ils vont regarder, ils vont défendre leur dossier en disant, moi, cette année, j'ai besoin d'une plus grosse part de l'enveloppe. Toi, t'en auras moins. C'est tout. Cette personne-là sera pas en contact avec les Québécois. Ah, il y a un autre domaine d'activité, c'est lorsqu'il y a des politiques. Lorsqu'on défend une idée politique, on l'assoit dans la salle, puis on dit, est-ce que cette politique-là risque de défavoriser ou favoriser le groupe que tu défends? Puis elle va se prononcer.
Mais il faut juste se rappeler de d'où vient cette recommandation de créer un poste comme
ça. Non, je
là,
sais, mais...
Ça vient
mais moi, je pense qu'elle a la raison sur un point.
Non-partisan à la Chambre des communes. Puis Paul, là, on insiste sur... Bon, ses propos, ça va. T'insistes sur le poste. Bien heureuse de t'entendre dire que... Puis on n'est pas le seul État, là, le seul endroit sur la planète qui a ce genre de poste. On donne des commissaires à la santé au Québec, des commissaires à l'environnement. Puis là, savez-vous quoi? On a besoin de quelqu'un pour à Ottawa pour se pencher sur non seulement sur l'islamophobie, parce que son mandat va au-delà de l'islamophobie. Touche aussi les questions touchant le racisme. Il faut juste pas l'oublier. Là, on a tendance à focaliser beaucoup sur le voile, sur les enjeux liés à l'islamophobie. Puis tout ça arrive au moment où on a souligné, on a célébré, ben pas célébré, mon Dieu, non, on a souligné la tuerie à la mosquée de Québec.
Oui, mais la seule raison, quand elle dit l'islamophobie tue, le sentiment antiféminin, antisémitisme tue, antifemme tue, antinationaliste tue. Il y a eu l'attentat contre Madame Marois. Donc c'est vrai qu'il y a tout le temps un esprit faible, un esprit mou qui récupère le racisme ambiant puis qui le transforme en agression. Ça c'est contre toutes les minorités et ça c'est une leçon aussi pour le Canada anglais là. À chaque fois que vous dites qu'on est plus raciste ici qu'ailleurs, et une leçon pour Mme El Gawabi, quand vous dites qu'on est plus raciste ici qu'ailleurs, vous alimentez un imbécile. Quand nous, on dit qu'un islamophobe, une personne qui porte le voile, au lieu de reconnaître en elle les valeurs de la religion musulmane, on reconnaît en elle la possibilité d'être envahie par des terroristes, on alimente des esprits faibles qui un jour vont passer à l'action. C'est pour ça qu'il faut enlever de notre discours toute forme de racisme ou de ségrégation aux gens qui ont une tête sur les épaules, là, parce qu'il y en a qui n'ont pas une tête sur les épaules.
Oui, mais en même temps, Luc, j'ajouterais ceci rapidement, Paul. C'est pas parce qu'on critique la loi 21 au Québec qu'on fait partie, qu'on est raciste et qu'on est anti-québécois.
Non, mais tu sais, moi, l'exemple lointain dont je me souviens très bien, là, c'est pendant la crise autochtone. Là, on passait pour des racistes, pour de mauvais traitements aux Premières Nations. C'est comme si dans l'Ouest, à Winnipeg, c'était mieux. Ce que je veux dire, tu lisais l'Open Mail, puis tu lisais t'écoutais le Canada anglais. C'est comme si les mauvaises relations avec les Premières Nations, c'était spécifiquement au Québec, puis qu'on était foncièrement raciste. Je m'excuse, là, mais les pensionnats autochtones, il y en avait ailleurs, qu'on a découvert après, puis les relations, là, Winnipeg, entre la police et les Autochtones, peux-tu dire que c'était pas non plus un modèle comme exemple, là? En tout cas. Merci à tous les deux. On vous retrouve demain vendredi dans le Fret.
C'est 23.